Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à tous et bienvenue dans le mag du samedi sur Cocktail FM, dernier rendez-vous de la saison avant septembre, un dernier magazine d'exception avec une exclusivité mondiale. En effet, à partir du 14 juillet, Saint-Dié sera la capitale internationale de la sculpture, en s'offrant ce qui pourrait bien être la plus belle exposition d'art contemporain de la décennie. Plus de 70 œuvres majeures des plus grands sculpteurs du 20e siècle. Braque, Rodin, Picasso, Claudel, Ernst, Dali, Armand, Modigliani et bien d'autres seront représentés à travers leurs œuvres maîtresses. Réunir une telle collection constitue en soi un exploit que l'on doit à l'un des plus grands spécialistes de la sculpture moderne, un passionné du nom de Armand Israël, qui est aussi le conservateur du musée Georges Braque dans la Tour de la Liberté, temple autour de celui qui a été l'un des créateurs du cubisme et de l'art abstrait. Il a accordé à Jean-Christophe Givor et Pauline Jacquot-Kellard un entretien exclusif.
Depuis 45 ans que je suis dans l'art, je me suis entouré d'amis qui sont devenus des gens importants et qui étaient des collectionneurs. J'ai pu, grâce à cela, réunir cette collection parce que j'ai appelé tous mes amis et ils ont tous répondu présent. Le résultat, vous le voyez, il est là.
Salvador Dali.
Vénus hystérique, Vénus au tiroir, le Minotaure, rhinocéros cosmique habillé en dentelle.
Auguste Rodin.
Le penseur, l'âge des reins.
Pablo Picasso.
Centaure phallique version 1.
César.
La table.
Modigliani.
Tête de femme.
Edgar Degas.
La danseuse.
Max Ernst.
Les deux.
L'artiste ne va jamais se laisser aller à la facilité. Il doit toujours se rappeler que la réalité existe, c'est-à-dire il doit toujours avoir un œil braqué sur la réalité et l'autre, l'œil fermé, comme on dit, l'œil fermé, mais réellement braqué sur le monde intérieur. Alors, voilà ce qui se passe ceci. Un écran qui se trouve exactement entre ces deux mondes, c'est un écran très mince, c'est sur cet écran-là, se joue ce qu'on appelle le fantastique. Cet écran-là a remplacé ce qui était dans le monde des impressionnistes, la rétine. C'était aussi pour eux la frontière entre le monde sensible et le monde intérieur. Mais eux se sont contentés de le reproduire sur leur toile.
Une vision de l'art par Max Ernst, mais Georges Braque va plus loin. Ce n'est pas assez de faire voir ce que l'on peint, il faut encore le faire toucher.
Et c'est précisément ce que propose cette exposition, une première mondiale, sculpture monumentale, des maîtres du XXe siècle, plus de 60 sculpteurs parmi les plus grands mondiaux et parmi leurs plus grandes œuvres. Mais pour les présenter, pour présenter ces œuvres et cette démarche, rien ne vaut le regard passionnant et passionné d'Armand Israël. Armand Israël, qui fut dentiste, mais qui est surtout un grand érudit de l'art contemporain, passionné de Braque, dont il est le conservateur du musée des Audaciens. Bienvenue dans la quatrième dimension de l'art.
Eh bien, j'ai essayé, si vous voulez, de faire de cette exposition une exposition relativement ouverte, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de styles, il va y avoir beaucoup de sculpteurs, et chacun différent, représentant beaucoup de mouvements. Par exemple, le mouvement cubiste, bien sûr, avec Braque à tout honneur, et le surréalisme avec Dali, le dadaïsme avec Max Ernst, le primitivisme avec Modigliani. Vous voyez, tous les mouvements sont là. Je ne parlerai pas des nouveaux réalistes avec Armand et César, des impressionnistes, puisque nous avons la chance d'avoir une sculpture de Renoir et la plus belle de Degas, qui est la danseuse. Et ce n'est pas fini. Vous avez aussi le groupe Cobra avec Appel, les classiques comme Volti, les néoclassiques comme Rodin, Camille Claudel, Pompon, le fauvisme avec Derain, et même l'abstrait avec Harpe. Donc vous voyez, on a essayé de faire quelque chose de complet. Et bien entendu, on a pris les meilleurs artistes et qui plus est, les meilleures œuvres de ces artistes. Parce que quand on voit le Rodin, quand on voit toutes ces œuvres importantes, on se rend compte que ce sont les œuvres majeures de ces sculpteurs. Donc voilà, mon travail a été de réunir tout ça et je vous dis, bon, j'ai rencontré beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié et puis de choses concrètes parce que comme vous le voyez, on a pu réunir tout cela en peu de temps, en 2 ans, parce qu'il faut quand même du temps, en 2 ans. Et je dois remercier aussi la ville de Saint-Dié et de son maire, hein, Christian Piret, qui est à l'origine de tout cela, toute son équipe qui a travaillé, je dirais, comme un seul homme, pour arriver à faire ce que nous avons aujourd'hui. Voilà.
Alors, vous parlez de la ville de Saint-Dié et de son maire, donc ça amène tout de suite ma deuxième question. Quel est le rapport existant entre Georges Braque, vous-même, et la ville de Saint-Dié ? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette histoire, s'il vous plaît ?
Eh bien, écoutez, Braque, d'abord, puisque si vous voulez, j'ai commencé à connaître Braque. Moi, j'ai aimé Braque depuis toujours. Hein, j'ai fait une rencontre avec la baronne de Bonafosse, qui était propriétaire d'une galerie très importante, qui était la galerie Stadler. Et c'était en 1969. Elle m'a demandé, à l'époque, on avait des chevaux chez le même entraîneur, elle m'a demandé quels étaient mes peintres préférés. Je lui ai dit Cézanne et Braque. Elle m'a dit, mais c'est incroyable parce que j'ai une galerie et je vais organiser une exposition de Braque qui a été présentée il y a 4 ans au Palais du Louvre. Et ça me ferait plaisir de vous inviter, je vous présenterai le baron de Lovenfeld. Ça a été le premier contact. Nous sommes restés très longtemps avec le baron de Lovenfeld à nous voir de temps en temps.
C'était proche de Braque. Hein.
Qui était l'héritier de Georges Braque. Et bien entendu, nous avons, en force de discussion, pris conscience d'une chose complètement anormale, complètement folle. Il n'y a pas en France, il n'y avait pas en France, un musée de Georges Braque. Le plus grand peintre, un des plus grands peintres de l'histoire de l'humanité, qui a fait des choses extraordinaires, qui a créé le cubisme, le mouvement, qui a ouvert la porte de la peinture contemporaine, parce qu'entre la peinture moderne et la peinture contemporaine, il y a le cubisme. Et ce cubisme est connu du monde entier. Tout le monde l'apprécie. Et en France, il n'y avait rien. Alors je lui dis, voilà, il faut absolument que nous travaillions ensemble pour créer ce musée. Et en 1973, il avait une exposition où, ah ben à Saint-Dié-des-Vosges. Et il rencontre le maire, il dit, je voudrais faire un musée. C'était 2 mois avant que nous ayons parlé de cela. Et finalement, on a travaillé là-dessus. On a eu la chance de rencontrer Christian Piret, un homme exceptionnel. Je dois le dire, c'est pas parce que c'est un ami, mais c'est parce que c'est vrai. Qui a travaillé pour que l'on puisse créer ce musée avec la Tour de la Liberté, qui avait été présentée au Jardin des Tuileries pour le bicentenaire de la Révolution française, puisque ces tours, il devait y en avoir 3, Liberté, Égalité, Fraternité, il y a eu celle-là véritablement faite, à représenter, si vous voulez, la France, comme la Tour Eiffel l'avait représentée pour le centenaire. Donc elle est l'homologue de la Tour Eiffel. Et voilà pourquoi, si vous voulez, nous avons, grâce à Christian Perret, pu construire ce musée que vous voyez à Saint-Dié-des-Vosges, qui est un des plus beaux musées du monde par sa structure, par sa conception. Les architectes Normier et Aimin ont fait un travail exceptionnel. Bon, aujourd'hui, nous avons ce musée. Il faut maintenant le faire connaître dans le monde entier. Et le but de l'exposition, c'est de montrer que Saint-Dié peut faire une exposition unique au monde. Je pense que une exposition privée comme celle-là, moi, je n'en connais pas d'autre.
Assassins, they say, hurting the world.
magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Camille Claudel.
La valse, femme accroupie.
Pompon.
L'ours.
Jean Harpe.
Palette. Aume.
André Derain.
Crétoise.
Georges Braque.
Pélias et Nélé, le char de Midas, Néoglocos, Héphaïsto, et puis des géants comme Hermès, Perséphone, et bien sûr les oiseaux bleus, le char de Médée, Eunicée, les trois grâces, Perséphata, Hébé, Aréon, Zétès et Calaïs, et bien sûr l'incontournable Bage à Picasso, les oiseaux bleus.
La Tour de la Liberté est un écrin pour les bijoux de Braque. Armand Israël.
Qui est Georges Braque ? Braque est donc un peintre qui a inventé le cubisme, mais avant cela, il avait une autre période dans laquelle il s'est initié, c'est-à-dire le fauvisme, qui a été créé par Matisse et par Derain. Et il est revenu tout de suite après au fauvisme, parce qu'il a compris, si vous voulez, que il y avait une évolution de la peinture. Et son évolution est extraordinaire, caractéristique de l'homme. Et je vais vous donner sa année par année, ce qu'il a fait dans cette évolution. Premièrement, en 1905, il était post-impressionniste. En 1906, une année après, il était fauve. Une année après, il rencontre Cézanne. Et il comprend tout ce que Cézanne a pu apporter à l'art. Et il est pré-cubiste. L'année suivante, il est cubiste. Et en 1909, donc vous voyez, en 5 ans, il est abstrait. Il a, en 5 ans, transformé complètement l'art. Et Picasso, qui n'était pas le moindre des mauvais peintres, a tout de suite compris que Braque était en avance sur lui, et il est venu travailler avec lui. Pendant 7 ans, ils ont travaillé main dans la main. Tout le monde connaît Picasso dans le monde. Braque, beaucoup moins, beaucoup moins. C'est une grave erreur, c'est une grave injustice que je me suis mis en tête de compenser. Voilà, c'est pour tout cela que, si vous voulez, ce musée a été fait. Donc, voilà Braque, quelle est l'importance de Braque, mais universellement. C'est que Braque a compris que Cézanne, en 1906, avait déstructuré le sujet. Le sujet, c'est ce qu'il y a de plus important dans la peinture. Donc, il a déstructuré ce sujet, c'est-à-dire qu'il a pris un sujet, il l'a coupé en morceaux. Et puis, il est mort. Et personne n'a compris véritablement la conception de Cézanne. Lui a compris, mais il a dit, Cézanne a fait une partie du chemin. Moi, je vais faire une deuxième partie. Ces œuvres, je vais les reconstituer, mais bien entendu, pas comme elles étaient, sinon ça n'a pas eu de sens, d'une façon intellectuelle. Et c'est la quatrième dimension que Braque a amenée à la peinture, la dimension intellectuelle. Voilà, si vous voulez, l'intérêt. Et le gros avantage, c'est que Braque a compris cela et il a fait ce cubisme. C'est la raison pour laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, entre l'art moderne et l'art contemporain, il y a ça. Et il est allé plus loin, comme je vous dis encore, c'est dans l'abstrait. L'abstrait, c'est quoi ? C'est que le sujet qui avait été, comme l'objet qui avait été transformé, progressivement, va disparaître. Et c'est ça l'abstrait. Et dans les usines de Rio Tinto, un tableau célèbre de Braque, on comprend tout cela. Et il est allé à un moment donné tellement loin qu'il s'est dit, mais où je vais ? En 5 ans, ce que j'ai pu faire, c'est énorme. Il s'est senti quand même en perdition. Si bien qu'il a arrêté et il est revenu à un autre cubisme, le cubisme synthétique, qui sont les papiers collés. Ces papiers collés, on n'en a pas compris le sens. Et pourtant, tout, ou 50% en tout cas, de l'art américain, européen, viennent de ces papiers collés. Quand on parle de Harpe, quand on parle de tous ces grands peintres comme Andy Warhol, comme Pollock, Duchamp, tous ces gens-là avec le dadaïsme, tout ça vient des papiers collés. Parce que quelle est la symbolique du papier collé ? C'est que pour la première fois, encore pour la première fois, un peintre, donc Braque, a considéré qu'une œuvre banale, un objet banal que l'on voit tous les jours, avait une signification artistique à partir du moment où le peintre la prenait et la plaçait dans des conditions spéciales avec d'autres choses et pouvait interpréter un objet qui devenait un objet d'art. On connaît bien la fontaine de Marcel Duchamp qui est un urinoir. En fait, l'urinoir, c'est quoi ? C'est bien ça, il a bien dit. C'est Braque qui m'a insufflé tout cela. Il a pris un objet un peu plus usuel et il a dit, ça, c'est une œuvre d'art, c'est ma volonté. Comme Braque l'a dit, je le fais. Les papiers coulés, c'est ça. D'un critique qui s'appelait Voxel, qui un jour a dit ce sont des cubes, des objets faits avec des cubes. Donc il a dit ça s'appellera le cubisme. Et ça n'a rien à voir avec des cubes, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est resté banalement dans le milieu artistique sous cette forme. Je vais aussi vous dire, puisqu'on parle du cubisme, et vous m'avez demandé de parler de Braque, nous avons vu tout à l'heure le fauvisme, on vient de parler du cubisme. Ensuite, il a fait des œuvres thématiques, c'est-à-dire qu'il a pris des œuvres, et comme c'est un perfectionniste, il les reproduisait en plusieurs exemplaires. Et il avait des thèmes, comme les duos, qu'il prenait et qu'il reproduisait. Par exemple, un bateau, il le reproduisait de 20, 30 façons. Le char de Médée, qui est une vedette et qui est la carte de vie de l'exposition, il en a fait 100. Donc, cette période, c'était une période où il essayait d'arriver à la perfection. Donc, la troisième période, je répète, le fauvisme, le cubisme et la période thématique. À la fin de sa vie, il s'est rendu compte que lui, Braque, qui avait inventé la troisième dimension, même la quatrième, n'avait pas fait beaucoup d'œuvres en relief. Il avait fait, 50 sculptures, mais même pas. Alors que Picasso, on avait fait plus de 1000. À ce moment-là, il s'est dit, c'est quand même, je vais mourir et je n'aurai pas fait d'œuvres dans une troisième dimension. Et c'est là où il a rencontré le baron d'Hohenfels, qui était un monsieur réputé pour des sculptures qu'il faisait. Il a fait en particulier un zoo, où chaque animal était une pierre spéciale. Donc, il avait réalisé quelque chose qui a été très intéressant et qui avait intéressé Braque. Il l'a convoqué, il a dit, voilà, moi, je suis malade, je vais mourir, je voudrais faire des œuvres en trois dimensions. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mes œuvres majeures, je vais les resynthétiser pour qu'elles puissent être transformées dans la troisième dimension, c'est-à-dire en sculpture, en céramique, en mosaïque, enfin, de toutes les possibilités, pour que nous puissions voir mes œuvres dans la conception qui est celle originelle dans laquelle j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire le cubisme, entre autres. Et vous allez avoir, à cette exposition, la seule œuvre cubiste de Braque, inventeur du cubisme. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque du cubisme, on a parlé des papiers collés, mais il avait fait ses sculptures en papier. Toutes les sculptures cubistes de Braque étaient en papier. Malheureusement, elles ont toutes été détruites. C'est la raison pour laquelle, en 1961, il fait un dessin issu de ces dessins cubistes, qu'il synthétise, comme nous venons de le voir, pour en faire Hermès, la seule sculpture qui existe au monde, qui a été présentée au Palais du Louvre du Vivant de Braque, et dont un exemplaire, puisque l'original est chez moi, il ira certainement dans un grand musée. 8 exemplaires ont été tirés. Un des 8 exemplaires sont dans ce musée et seront présentés à cette exposition. Il faut l'avoir parce que il y a très peu, il n'y en a que 8, donc il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Voilà.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
À Saint-Dié, on l'a compris, la Tour de la Liberté est donc le plus grand musée au monde abritant des œuvres de Braque. On parle de bijoux de Braque, mais n'allez pas croire qu'il s'agisse de colifichets.
Bijoux, il faut l'interpréter dans le sens dans lequel Malraux en avait parlé, parce qu'il a dit c'est des bijoux, comme on dit que le château de Chenonceau est un bijou. Donc le mot bijoux, il faut bien l'interpréter dans le sens dans lequel Malraux avait fait cette exposition. C'est pour ça qu'on appelait les bijoux de Braque, mais bijoux dans le sens de quelque chose d'exceptionnel. Voilà la signification. C'est la raison pour laquelle ce musée s'appelle le musée Georges Braque des métamorphoses, puisque les œuvres ont été métamorphosées. Et c'est cette quatrième dimension qui se trouve actuellement au musée de Saint-Dié-des-Vosges. Il n'y a plus, malheureusement, la possibilité de faire un musée de Braque total, puisque toutes les œuvres sont dispersées. Vous savez, Braque a dû faire à peu près 1000 œuvres. 850 sont dans les musées, 100 sont dans les grandes collections. Il en reste une cinquantaine d'importants. Et quand il passe en vente, une fois sur deux, c'est un musée qui l'achète. Donc très bientôt, il n'y aura plus d'œuvres de Braque.
J'avais 5 ans, 6 ans, je connaissais Braque. J'habitais Varengeville avec ma famille et régulièrement, on le voyait passer.
Michel Lemaître, proche ami d'Armand Israël, ami des arts et commissaire de cet événement mondial.
Maman, de temps en temps, lorsqu'on avait des œufs frais, me disait « Va porter ça à Madame Braque ». Alors j'allais porter mes 6 œufs. J'avais le droit à un caramel. À l'époque, c'était un carambar. Et puis un jour, j'ai vu passer Braque. Et il avait des yeux tellement doux, tellement gentils. C'était facile de l'approcher. Et moi, j'avais été cueillir 4-5 pissenlits lorsque je l'ai aperçu. Et je suis allée lui offrir les 4-5 pissenlits. Et il avait l'air content, ma foi. En tout cas, moi, j'étais très fière de moi. Vous savez, Braque, je suis une inconditionnelle. Et pour la petite histoire, ma famille est enterrée à Varengeville, 2 tombes derrière Georges Braque, et c'est là que je reposerai.
Quel est le rôle de commissaire d'une exposition ?
C'est surtout au début, d'abord la mise en place et après le début de l'exposition, puisque nous avons à expliquer les œuvres. C'est tout à fait logique et normal. Les gens nous posent plein de questions. Ils sont venus pour voir, mais pour savoir. Mais avec M. Israël, pour moi, ça a été assez simple. Car chaque fois, vous savez, je ne savais pas loin tout ce qu'il y avait dans la première exposition que nous avons fait ensemble. Et je téléphonais, il me disait, je pouvais, et voilà, j'ai pompé comme un buvard grâce à M. Israël. Nous nous sommes connus lorsque les cendres du baron de Löwenfeld ont été rapatriées à Saint-Dié-des-Vosges. Et nous étions l'un à côté de l'autre. Et nous avons rêvé ensemble, nous avons rêvé de ce qui se produit aujourd'hui. Vous savez, Monsieur Israël, c'est un poète dans son genre. Alors il m'a entraîné dans son rêve. Je ne me suis pas aperçue au début. Et puis finalement, moi, Braque, je l'ai toujours aimé. Donc ça nous a créé des liens extraordinaires. Moi, c'est mon ami, Monsieur Israël. Donc, et comme je voulais vous dire, c'est que l'exposition que vous allez voir, c'est la plus importante que nous présentons du 14 juillet au 10 octobre. Et ce sera une exposition exceptionnelle, présentée pour la première fois dans le monde, je dis bien dans le monde entier. Ensuite, elle va se projeter dans de grandes villes et des capitales étrangères. Nous devons cette exposition d'abord aux amis de Georges Braque. Et si nous avons pu justement compter sur ses amis, c'est parce qu'Armand Israël était derrière. Regardez bien. Quand vous arrivez à Saint-Dié, vous descendez de la gare, vous avez le Délos. Après, vous arrivez ici, vous avez la Tour de la Liberté. Ce petit musée Georges Braque, c'est un écrin et c'est sensationnel. Et voilà maintenant cette exposition extraordinaire. C'est Braque qui reçoit chez lui.
C'est important de rêver quand on s'intéresse à l'art, quand on veut approcher l'art.
Oui, parce qu'il y a toute une part. Bon, il y a des éléments que vous connaissez. Et puis il y a la grande part que vous ne connaissez pas. Et si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous explique ce que vous n'avez pas compris, vous savez, ça fait toute la différence, puisque régulièrement, lorsque nous faisons une exposition, nous entendons les gens dire « Oui, mais enfin, qu'est-ce que ça représente hein ?» Peut-être vous vous êtes déjà posé la question. Nous-mêmes, on ne sait pas toujours. Mais si on nous explique, alors ça y est, je vous le disais, c'est le coup du buvard. On absorbe, on pompe, on comprend, on voit. Et ça, c'est un enrichissement extraordinaire. Au milieu des grands désordres de notre temps, de l'apparente fissure de notre mémoire collective, croyez-moi, c'est exaltant et puis c'est valorisant.
Parmi ces grands maîtres du XXe siècle, il y a deux invités d'honneur qui sont peut-être des grands maîtres ou grandes maîtresses en devenir.
Il y a d'abord Benatoff. Benatoff, c'est son nom de guerre, hein, c'est son nom d'artiste, c'est le prince Golgorouki. Et il a racheté la fonderie Valzuali il y a quelques années, dans les années 80, parce qu'elle était fermée, cette fonderie. Et maintenant, il en a fait la plus grande fonderie du monde. C'est extraordinaire. Donc, nous l'avons comme invité d'honneur. Et puis, il y a Madame Parra. Madame Parra, c'est très bizarre parce que jamais personne, je suis sûre, dans notre région, n'a vu ces sculptures. Ce sont des sculptures en papier de soie. Et ça représente des personnages, Madame de Sévigné, plein de choses. Et il faut venir, il faut voir ces sculptures.
Et c'est à l'homme grâce auquel l'équipe de Cocktail FM a pu voir ces sculptures de près, voire de très près, Christian Pierret, le maire de Saint-Dié et le maître de cérémonie du jour, que revient le mot de la fin.
L'objectif, c'est pas de distance entre pendant cette période de vacances, où il faut prendre la distance avec la vie de tous les jours, avec les soucis. Pas de distance avec l'œuvre d'art, par contre. Donc, une proximité, une familiarité. Et alors, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que des œuvres qui pouvaient paraître un petit peu difficiles, un peu absconses au départ, sont en fait, par des gens du peuple, extrêmement simples, appréciés et approchés. Et la plus belle récompense pour un élu qui s'intéresse à l'art, comme je crois je le suis, c'est de voir que le plus difficile pour des gens qui ont des idées préconçues en tête devient le plus facile pour tout un chacun. Eh bien, c'est ça le miracle.
Une partie de ces œuvres monumentales des maîtres de la sculpture du XXe siècle est déjà exposée autour de la Tour de la Liberté de Saint-Dié. On y croise le Penseur de Rodin ou encore des Renoirs. Et surtout, ainsi que l'expliquait Christian Pierret, on peut approcher ces œuvres jusqu'à les toucher. L'exposition ouvrira quant à elle officiellement à partir du 14 juillet jusqu'au 10 octobre et devrait avoir un rayonnement international très mérité. Et puis pour en savoir plus sur Armand Israël ou sur Christian Pierret amateur d'art, rendez-vous également dès lundi sur notre site internet www.cocktailfm.com avec quelques suppléments à écouter. Un immense merci à Armand Israël, homme de l'ombre qui a accepté de passer à la lumière, mais aussi à Michel Lemaître pour avoir partagé avec nous un peu de son jardin, un secret, ainsi qu'à Vianney Huguenot et Laetitia Martel au service de la communication de la ville de Saint-Dié et à son maire Christian Pierret. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison du MAC du samedi, un mois de septembre. Nous témoignerons notamment des femmes étrangères qui veulent apprendre la langue française, mais aussi quelques athlètes vosgiens et internationaux de très haut niveau, ainsi que quelques géographes russes. Ce seront quelques temps forts du MAC du samedi de septembre prochain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.